Je passe à la présentation donc de Henri Rousseau. Il est né en 1954, il est historien, agrégé d'histoire, directeur de recherche au CNRS et enseignant associé à Paris 10 Nanterre. Il est directeur de l'Institut d'histoire du temps présent. Sa spécialité, il a travaillé sur la Deuxième Guerre mondiale, l'histoire politique et économique du régime de Vichy, vous allez voir quand je parlerai de sa bibliographie, puis sur l'histoire de la mémoire de la guerre. De manière générale, il se concentre sur les rapports entre mémoire et histoire. Il est membre de comités de rédaction de nombreuses revues, 20e siècle, revue de l'histoire, droit et société, etc. Il a publié de nombreux articles et un certain nombre de livres, dont je vous donne quelques-uns. Un château en Allemagne, Sigmaringen, 1944-45, paru une première fois chez Ramsay en 1980 et aux éditions à Bruxelles, chez Complex, en 1984, sous le titre Pétain et la fin de la collaboration, Sigmaringen, 1944-45. Le syndrome de Vichy, de 1944 à nos jours, au Paris aux éditions du Seuil, 1987, réédité en 1990. La collaboration, les noms, les thèmes, les lieux, Paris édition MA, 1987. Les années noires vivent sous l'occupation chez Gallimard en 1992. Vichy, un passé qui ne passe pas avec Éric Conant chez Fayard en 1994, nouvelle édition augmentée en 1996. La Seconde Guerre mondiale, guide des sources conservées en France aux Archives nationales en 1994. La hantise du passé, entretien avec Philippe Petit à l'édition textuelle 1998. Et enfin, Vichy, l'événement, la mémoire, l'histoire chez Gallimard 2001. Donc je lui cède la parole pour une cinquantaine de minutes et ensuite, comme d'habitude, une vingtaine de minutes pour vos questions. Merci.
Merci, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est vrai qu'il me revient le privilège de clore cette série de conférences sur la guerre d'Algérie par un thème qui est aujourd'hui classique dans l'historiographie. La mémoire de l'événement, c'est-à-dire l'étude de sa postérité dans l'imaginaire collectif, l'évolution successive, donc depuis 1962, depuis la fin de la guerre d'Algérie, des représentations collectives que cet événement a suscité. C'est un privilège redoutable parce qu'à la fois le sujet reste un sujet extrêmement vif dans la mémoire et le sujet que je vais traiter aujourd'hui n'a pas de point terminal. On pourrait aussi bien considérer que cette conférence fait partie du sujet que je vais traiter. Redoutable aussi parce qu'en ce qui me concerne, j'ai surtout travaillé sur la période de la Seconde Guerre mondiale. Et si les organisateurs m'ont sollicité plutôt que d'autres, je pense que c'était avec une petite idée ou une petite arrière-pensée qui était est-ce qu'il est possible de comparer, même de façon lointaine, et on y reviendra, j'y reviendrai dans le courant de la conférence, la mémoire de la guerre d'Algérie en France et la mémoire de la Seconde Guerre mondiale toujours en France. Alors, c'est une constante chez les historiens depuis maintenant une vingtaine ou une trentaine d'années, en particulier dans l'étude des guerres, la première, la deuxième guerre mondiale ou la guerre d'Algérie, et de manière générale dans l'étude des événements traumatiques contemporains, je m'en tiens ici comme exemple au XXe siècle, que de considérer que ces événements ne finissent pas, que ces passés ne passent pas, pour reprendre une formule qui a fait un peu fortune, ce qui est la définition même d'un traumatisme. C'est-à-dire, un traumatisme, c'est quoi? Vous avez un accident, vous avez un choc violent, mais ce choc se poursuit. Ce choc a une durée qui dépasse de très loin la durée même de l'événement. Nous vivons encore aujourd'hui, et c'est presque une évidence lorsqu'on regarde l'actualité, dans l'écho de cette guerre d'Algérie qui n'en finit pas de poser des questions, de poser des problèmes, de soulever des polémiques, etc. Ce qui veut dire pour l'historien qu'il a une tâche qui est un peu différente que celle qui consiste à analyser l'histoire de l'événement, ce qui a été fait dans les conférences précédentes, il doit se pencher sur un autre problème, un peu différent, un peu plus difficile, qui consiste à mettre en évidence une autre histoire, non pas l'histoire de l'événement, mais l'histoire de la mémoire de cet événement, c'est-à-dire, encore une fois, la manière dont cet événement, depuis 1962, en ce qui concerne la guerre d'Algérie, jusqu'à aujourd'hui, s'est perpétué dans la conscience collective, a été représenté, a été parfois instrumentalisé, a donné lieu à des représentations concurrentes, parfois divergentes, parfois diamétralement opposées. On le verra évidemment en ce qui concerne la guerre d'Algérie. En premier lieu, je ne voudrais pas vous fatiguer avec des définitions ou avec de la théorie, Mais le mot mémoire est un mot valise, comme on dit. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas ouvrir aujourd'hui un journal qui vous parle du passé sans qu'on évoque le mot mémoire. Et au bout de 3 minutes de lecture, on se demande, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement la mémoire et de quoi parle-t-on ? Alors, sans faire un grand cours théorique, mais pour éviter quand même les malentendus qui sont nombreux lorsqu'on parle de la guerre d'Algérie, de la mémoire de la guerre d'Algérie, et surtout parce que l'on abuse, à mon avis, énormément de mots dont on a parfois perdu le sens, mémoire, oubli, refoulement, tabou, c'est le mot qu'on emploie peut-être le plus lorsqu'on parle aujourd'hui de la guerre d'Algérie, j'aimerais très rapidement donner quelques définitions préalables, ne serait-ce que pour vous permettre de comprendre mon point de vue. La mémoire, qu'est-ce que c'est ? Très simplement, c'est la présence du passé, c'est le présent du passé. Ce qui est important à retenir dans cette définition, c'est qu'elle est, comme le dit le proverbe, plus fille de son temps que fille de son père. C'est-à-dire, pour comprendre l'état d'une mémoire, pour comprendre par exemple comment la guerre d'Algérie continue aujourd'hui de vivre dans notre conscience, il faut bien sûr faire référence à l'événement lui-même, qui en est à l'origine, donc au passé, mais il faut aussi s'interroger sur notre présent. S'interroger pourquoi on commémore la guerre, on ne la commémore pas de telle ou telle manière. Pour comprendre la mémoire, il faut donc combiner deux types de critères qui sont à mon avis très importants. L'événement lui-même, donc son histoire, il faut connaître son histoire bien entendu, mais le contexte dans lequel il s'est développé depuis 1962. Donc en fait l'histoire de la mémoire de la guerre d'Algérie, pour le dire de façon assez simple, c'est une histoire qui porte sur les 30 ou 40 dernières années, qui ne porte pas encore une fois sur la guerre elle-même. L'histoire, on fait toujours la distinction, à mon avis, de manière un peu trop tranchée entre la mémoire et l'histoire. L'histoire, c'est-à-dire celle des historiens, le discours que tiennent les historiens, discours à vocation savante, du moins on le suppose et on l'espère, est une des modalités de cette présence du passé. L'historien n'a aucun privilège. Tous ceux qui ont parlé, par exemple, dans cette série de conférences sur l'événement lui-même, sur la guerre d'Algérie, avaient bien entendu une connaissance indirecte de l'événement, une connaissance historienne acquise par les témoignages, par les archives, par les enquêtes, mais qui, du point de vue d'une hiérarchie morale, par exemple, dans la société, n'a aucune prééminence par rapport à des souvenirs personnels, par rapport à ce que les uns et les autres, pour ceux qui ont vécu cette période, ou même qui ont pu en être directement affectés, et qui en ont évidemment une certaine représentation qui a autant de valeur que celle d'un historien. Et pourtant, on fait toujours la distinction entre mémoire et histoire, et il est très important de comprendre cette distinction pour comprendre ce que signifie un sujet comme la guerre d'Algérie dans la mémoire des Français. Alors, puisque je n'ai pas le temps de vous faire un cours théorique, et surtout parce que ça vous lasserait, je vous propose, ce que j'ai fait plusieurs fois avec des étudiants, de retenir une formule qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui montre bien à la fois la différence et la complémentarité. La mémoire, c'est « je me souviens », et l'histoire, c'est « il était une fois ». La mémoire, c'est « je me souviens » parce qu'elle parle le souvenir, elle parle au présent et elle parle surtout à la première personne. L'un des gros problèmes que l'on a lorsqu'on parle de la guerre d'Algérie, lorsque l'on parle d'ailleurs en général de la mémoire d'un événement, c'est de faire le rapport entre des mémoires individuelles, des expériences individuelles, un vécu individuel avec un récit collectif qu'il s'agit de déterminer et qui pose toujours problème parce qu'un récit collectif se doit ou prétend être avoir une part de consensus minimal. Donc, je me souviens d'un côté, il y a une part de subjectivité, mais ce qui n'est en rien péjoratif. Et de l'autre côté, l'histoire, c'est quoi ? C'est « il était une fois ». Elle parle au passé, elle prétend restituer la vérité du passé. Elle est un récit qui se prétend qu'il y a une certaine manière, une certaine neutralité. Mais les deux choses sont tout à fait liées. Encore une fois, l'histoire des historiens, est une des manières par laquelle l'histoire, se manifeste dans notre présent. Ce que je dis, moi, aujourd'hui, sur la guerre d'Algérie, ce qu'ont dit les conférenciers précédents, encore une fois, existe dans l'espace public, au même titre que les films, que les romans, que, encore une fois, les souvenirs des uns et des autres. Troisième notion, très rapidement, la mémoire collective. Alors, la mémoire collective agite beaucoup les historiens, les sociologues, commencent à agiter un peu les philosophes depuis quelques années. C'est un concept, c'est une convention de langage. Elle désigne la manière dont un groupe donné se remémore le passé et l'inscrit ou ne l'inscrit pas dans son présent. Quand on parle de mémoire collective, ça implique par définition qu'il faille repérer quel est ce collectif, quel est ce groupe dont on parle. Et on va voir que pour la guerre d'Algérie, il est extrêmement difficile de considérer qu'il y a une mémoire collective, au sens où il n'y aurait qu'une seule représentation de cet événement qui prévalerait. Le gros problème est au contraire d'arriver à démêler les antagonistes dans la représentation du passé. Mais il faut également, pour qu'il y ait mémoire collective, il faut qu'il y ait un espace public, il faut qu'il y ait une expression de cette mémoire. Il faut que la prise de parole, puisqu'on parle beaucoup de prise de parole depuis quelque temps à propos de la guerre d'Algérie, j'y reviendrai, les gens commencent à parler, les anciens appelés commencent à parler, mais encore faut-il que cette parole, pour qu'elle elle ait un sens du point de vue de la mémoire collective, soit publique. Hein. Pourquoi je dis ça ? Parce que souvent, quand on dit la guerre d'Algérie est un sujet tabou, même l'Histoire, qui organise ses conférences, dans son dernier numéro, sans mythe ni tabou. D'ailleurs, c'est vraiment le terme. Mais le tabou, en général, il doit être analysé à deux niveaux. Il peut y avoir un tabou collectif, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un silence, une absence, un refus de parler de l'événement de la guerre d'Algérie sur le plan collectif, en particulier sur le plan officiel, j'y reviendrai, mais il n'est pas du tout sûr que ceci accompagne une occultation, un oubli, un refus sur le plan individuel. Parfois, c'est le cas. Mais lorsqu'on parle de mémoire collective, il y a une grande ambiguïté. Dire, par exemple, qui est un des topos aujourd'hui, on a fait silence sur cette guerre, ce qui est évidemment en grande partie vrai pendant 30 ans, ne signifie pas que pendant 30 ans ou pendant 40 ans, tous ceux qui ont vécu cette guerre, qui ont souffert de cette guerre ou qui en ont été marqués, ont oublié complètement ce qui s'est passé, n'en ont jamais parlé entre eux, n'ont jamais transmis dans leur environnement, et je pense notamment à la transmission familiale qui est quand même capitale, ce qu'ils avaient vécu. Donc il y a toujours une ambiguïté lorsqu'on parle de mémoire collective, et il faut bien faire attention à chaque fois de préciser de quoi il s'agit. Alors, les mémoires collectives dont on parle le plus souvent, et c'est ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est d'abord la mémoire nationale, hein, qui implique une prise de position de l'État dans l'organisation des souvenirs. C'est la mémoire de groupes particuliers, c'est très important en ce qui concerne la guerre d'Algérie, puisqu'il y a eu des expériences qui ont été extrêmement différentes de groupes constitués qui ont joué un rôle très important dans la constitution d'une mémoire collective de la guerre. Et enfin, les mémoires individuelles, encore une fois, nées de l'expérience des individus et qui ne rencontrent pas toujours la mémoire collective ou qui même refusent de rencontrer ce qu'on appelle vulgairement, ou le sens commun appelle, la mémoire collective. J'étais un peu abstrait pour simplement préciser un petit peu les choses et qu'on garde en mémoire un minimum de rigueur, un minimum de rigueur dans les définitions. Je voudrais enchaîner sur une deuxième remarque générale, mais pour entrer dans le cœur du sujet. J'ai été frappé en travaillant, en préparant cette conférence, moi qui ne suis pas à proprement familier de cette guerre comme je le suis, par exemple, de la Seconde Guerre mondiale, j'ai été frappé par une caractéristique que j'ai déjà évoquée, c'est l'usage du mot tabou et l'usage du mot oubli. Et je voudrais vous citer simplement une phrase qui a été souvent citée par ceux qui parlent à la mémoire de la guerre d'Algérie. Elle est de Pierre Nora, un historien connu pour avoir travaillé notamment sur la mémoire, qui a écrit Les lieux de mémoire, et qui a écrit à propos de l'Algérie, qu'il a connu évidemment et de près. Il a cette phrase qui me paraît très importante et intéressante. « Dès que fermaient les portes de la guerre, tout le monde a voulu oublier, du moins tout le monde a fait semblant. » De cette phrase, on retient en général « tout le monde a voulu oublier ». C'est l'oubli, c'est-à-dire encore une fois, on n'a pas parlé de la guerre, on l'a caché, on l'a occulté. Mais cette remarque incidente, on a fait semblant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le faire semblant implique un effort, implique une fiction, implique quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai. Il y a un oubli, encore une fois, sur la place publique, mais qu'en est-il lorsqu'on creuse un peu en profondeur ? Alors, ce qui m'a frappé personnellement en travaillant encore une fois sur ce sujet, ce n'est pas tellement la question de l'oubli sur laquelle je vais revenir dans ma chronologie, mais c'est trois autres choses que je vais très rapidement développer. Le premier, qui est plutôt de l'ordre de la psychologie, enfin j'emploie le terme avec un peu de précaution, si l'on regarde les témoignages, les prises de parole, notamment récentes et publiques, par exemple des anciens appelés, ou par exemple des gens qui ont été victimes de la torture, ou par exemple d'autres catégories, c'est plutôt quelque chose qui relève d'un ressentiment. Et quand j'emploie ce terme, je ne mets aucun jugement de valeur derrière. On ressent quelque chose de l'ordre du ressentiment, de l'amertume, en même temps que la nécessité de réprimer cette tendance. C'est-à-dire qu'il y a une tension chez ceux qui parlent, une amertume qui s'exprime la plupart du temps, et en même temps une volonté de parler, une volonté de surmonter cette amertume ou ce ressentiment. Si on l'observe d'un tout autre point de vue, du point de vue de l'événement historique et de la façon dont il est aujourd'hui interprété, hein, pour avoir une des clés d'interprétation possible des interprétations divergentes, des représentations divergentes, ce qui m'apparaît, c'est que la guerre d'Algérie, dans la mémoire, est prise, et d'ailleurs dans l'événement lui-même, a été prise tout entière dans une dialectique que l'on commence à connaître et à pratiquer depuis fort longtemps, qui est celle de la guerre juste ou de la guerre injuste. La guerre a été déclarée ou décrétée, encore une fois, ce ne sont ni des jugements de valeur, ni des positions personnelles, juste entre guillemets, du côté algérien, puisque c'était une résistance à l'oppression, c'était même une révolution du côté algérien. Elle a été ou elle est implicitement considérée, à tort ou à raison, encore une fois, je ne me prononce pas pour l'instant de savoir si c'est vrai ou pas, comme une guerre injuste du côté français, injuste parce que guerre coloniale, ou plus exactement, parce que le mot guerre coloniale me paraît impropre, une guerre pour le maintien de la colonie, et non pas pour sa conquête. Mais lorsqu'on parle de guerre, ici, de guerre juste et injuste, qui est très important, puisque toute une partie du débat aujourd'hui sur la guerre d'Algérie, sur les responsabilités, sur la question de la torture, sur la question de la légitimité d'un certain nombre d'engagements, est prise tout entière dans cette notion de guerre juste ou injuste. S'il s'agit d'une guerre juste, alors beaucoup de choses sont permises. Si c'est une guerre injuste, alors beaucoup de choses sont à rejeter. Mais lorsqu'on parle de la justesse, ici, lorsque je parle de la justesse, il s'agit de la justesse des fins, des buts de guerre, du pourquoi les uns et les autres, en tous les cas les deux camps ont fait la guerre, mais pas celle des moyens utilisés, qui implique encore une autre grille d'analyse, ni encore des conséquences induites par la guerre, hein, qui sont des conséquences qui ont notamment évidemment entraîné des injustices, qu'elles aient été provoquées ou qu'elles aient été involontaires. Et lorsqu'on dit ça, donc ce hiatus entre d'un côté une guerre juste, de l'autre une guerre injuste, la différence entre des fins qui peuvent être justes et des moyens qui peuvent être totalement injustes, on voit déjà qu'une réconciliation complète entre les parties en présence est pratiquement impossible, en tous les cas à ce jour, à ma connaissance, et en observant les choses comme vous, je ne la vois pas, ce qui explique déjà une des caractéristiques qui a été relevée par la plupart des observateurs qui ont travaillé sur la mémoire de cette guerre, c'est qu'il n'existe pas de mémoire nationale de la guerre d'Algérie, au sens d'une mémoire unifiée, qui aurait, par une série de commémorations, par une série de célébrations, par une série de dispositifs politiques, donné une sorte de vision, on peut dire officielle, mais le terme a quelque chose de péjoratif, mais disons unitaire, acceptée plus ou moins par l'ensemble de la communauté, toujours au prix d'une fiction et de quelques mensonges pieux. Hein. Ça a été finalement, après de nombreux soubresauts, le cas pour la Seconde Guerre mondiale. Il a fallu quand même près d'un demi-siècle pour arriver à un minimum de consensus sur l'interprétation et la commémoration de cette guerre. Mais pour la guerre d'Algérie, on n'en est pas, à mon sens, encore arrivé à ce stade. Et j'en viens à ma troisième remarque, qui était un peu celle par laquelle j'ai commencé. Je me suis interrogé, peut-être par mon domaine de spécialité initiale, sur les liens entre la mémoire de la guerre d'Algérie et celle de la période de Vichy. Liens qui sont en permanence faits pour des raisons historiques évidentes. Hein. D'abord parce que les points de rencontre sont très nombreux, je n'en prendrai qu'un éclatant, c'est qu'il y a souvent les mêmes acteurs, à commencer par le général de Gaulle, il y a les mêmes problèmes d'épisodes honteux, il y a le même problème du débat sur faut-il ou pas occulter un certain nombre d'épisodes, il y a le même problème en ce qui concerne les histoires controversées, etc. Il y a aussi des différences considérables. Hein. Il y a aussi des différences considérables. Lorsqu'on parle de la Seconde Guerre mondiale, le camp vaincu, heureusement, il n'y a pas d'interlocuteur, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne pour défendre, ou une minorité, disons, dans la société, et je parle même à l'échelle européenne, pour défendre le point de vue du camp vaincu. En ce qui concerne la guerre d'Algérie, nous sommes dans une situation totalement différente, et évidemment, je ne fais aucune espèce d'assimilation, mais les vainqueurs et les vaincus continuent, dans tous les sens du terme, soit de dialoguer, soit de se confronter, soit de vivre ensemble. Donc on est dans une dimension où la question d'une mémoire d'un national, d'une unification, d'une possibilité d'arriver à un discours qui puisse convenir plus ou moins à tout le monde est une question ouverte et, à mon avis, encore une fois, non résolue. Mais ce qui m'intéressait aussi, ce n'est pas simplement la comparaison entre deux événements historiques qui sont en plus très proches. Hein. La guerre d'Algérie commence 10 ans après la fin de la guerre. Pour certains historiens, elle commence le jour même de la fin de la guerre, c'est-à-dire le 8 mai 1945, avec les massacres de Sétif, mais je ne vais pas entrer dans ce débat aujourd'hui. Donc il y a un lien indissoluble sur le plan historique entre les deux événements. Mais je me suis interrogé, j'essaierai d'en dire un mot à la fin de cet exposé, sur la façon dont aujourd'hui un pays comme la France se souvient. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui les rituels, que sont aujourd'hui les rituels du passé? Que signifie encore une fois la mémoire collective? Comment est-ce qu'on conçoit un monument? Et on verra, à mon sens, qu'il y a une sorte de similitude, pour ne pas dire une sorte de mimétisme, entre les demandes qui sont faites de toutes parts hein, à propos de la guerre d'Algérie et celles qui ont été faites dans un passé assez récent à propos de la Seconde Guerre mondiale. Pour ne prendre qu'un exemple, et j'y reviendrai si j'ai le temps, le procès Papon, à un moment, qui était fondamentalement le procès d'un ancien fonctionnaire de Vichy, à un moment donné, est devenu, pour un bref moment, même si ça n'entrait pas dans les catégories juridiques de ce procès, le procès de la guerre d'Algérie, avec la question de sa responsabilité personnelle en tant que préfet de police. Il y a donc là une rencontre qui, quand même, mérite qu'on s'y arrête. Mon troisième point, alors là, pour le coup, j'entre directement dans le vif du sujet, c'est que pour comprendre la mémoire de la guerre d'Algérie, il faut bien sûr retracer l'évolution des représentations depuis 1962, mais il faut d'abord, je crois, mettre en évidence les groupes sociaux sur lesquels cette mémoire s'appuie, c'est-à-dire ceux qui en ont été le plus porteurs. Bien sûr, la guerre d'Algérie est un événement national, est un événement qui concerne l'histoire de France dans son ensemble, et l'histoire de l'Algérie par définition, et même l'histoire du monde, sans exagérer les choses, puisque c'est une des guerres de décolonisation qui a été une des plus importantes et une des plus meurtrières. Mais fondamentalement, au moins en ce qui concerne la France, je précise que, faute de compétences et de temps, je ne parlerai pas du parallèle entre la mémoire de la guerre d'Algérie en France et de la mémoire de la guerre d'Algérie en Algérie, ce qui est un sujet en soi. En ce qui concerne la France, il y a des groupes particuliers qui ont porté, évidemment, cette mémoire, chacun à leur manière. Le premier, on en a parlé récemment dans une de ces conférences, c'est ce qu'on appelle, et je mets le mot entre guillemets encore qu'aujourd'hui, ça n'a plus beaucoup de sens, les pieds noirs. Plus d'un million de personnes déplacées en France et non rapatriées, il faut toujours faire attention aux termes qui sont rentrés dans le langage commun. Pour beaucoup, ce n'était pas leur pays d'origine. Aux statuts sociaux et professionnels extrêmement divers, souvent loin, je crois qu'on l'a dit dans une conférence précédente, de l'image du colon entre guillemets dominateur. C'est une population qui se considère, et non sans quelques raisons, si on en croit les enquêtes, les études qui ont été faites sur cette population, qui est un groupe social qui n'est pas né de la guerre, je précise, évidemment, qui a un critère d'existence qui est antérieur par définition à la guerre d'Algérie, mais qui a été soudé d'une certaine manière par l'expérience commune de l'exil. Donc cette population se considère, encore une fois, non sans quelques raisons, comme une des principales victimes de la guerre, et où le ressentiment est parfois d'autant plus fort, hein, même si aujourd'hui, probablement, il s'estompe avec les différences de génération, d'autant plus fort que l'accueil en France, si on en croit quand même une histoire déjà bien connue, fut relativement médiocre. C'est intéressant parce que c'est quand même dans les suites de la guerre d'Algérie, dans les premières séquelles immédiates de cette guerre, c'est déjà un problème d'intégration, problème qui va revenir à l'ordre du jour avec une autre catégorie sur laquelle je reviens dans un instant. Je ne vais pas développer ce point, simplement insister sur une chose, cette population-là est porteuse de représentations particulières de la période, en particulier de la guerre évidemment, elle est porteuse d'une représentation de l'Algérie coloniale, il y a, on l'a dit souvent et je n'invente rien, une certaine forme de nostalgie, donc il y a une sorte de discours qui est donné dans la société française, ou qui a été donné dans la société française, même de manière, disons, minoritaire, sur l'existence d'un âge d'or, plus ou moins imaginaire. On a là des phénomènes de reconstruction que l'on observe dans toute autre catégorie de population et dans tout autre phénomène de mémoire, c'est-à-dire des reconstructions a posteriori, notamment la question des relations entre les Français de souche, comme on disait, et les Français musulmans, qui a été parfois quelque peu idéalisée, donc un certain nombre de problèmes qui ont rejailli à la surface des années après. Et dans cet ensemble, je n'en dis qu'un mot pour qu'on comprenne un peu la complexité du problème aujourd'hui, pour essayer de comprendre ce qu'est la mémoire de cette guerre, il y a un ensemble un peu particulier qui est celui des Juifs d'Algérie. Pourquoi j'en parle ? Parce que ces Juifs d'Algérie ont été fondus, si on peut dire, ont été confondus à tort ou à raison dans ce qu'on appelle à tort, à mon sens, la communauté juive de France, qui a doublé, hein, pour le coup, puisque c'est à peu près 220 000 personnes qui sont venues d'Afrique du Nord, sur lesquelles, d'ailleurs, courent souvent des informations ou des mythes ou des clichés qui ont encore la vie dure, comme par exemple le fait qu'ils seraient tous des séfarades, pour faire la distinction avec les ashkénazes, ce qui n'est pas vrai, puisqu'une bonne partie, une partie d'entre eux, du point de vue de des familles, étaient enracinées en Algérie avant la conquête arabe, et donc il y a là une forme d'enracinement qui ne passe pas du tout par l'Espagne, et donc des traditions, c'est là où je veux en venir, hein, je n'essaie pas du tout d'en faire un groupe à part, mais il y a des traditions là encore qui parfois sont méconnues, mal comprises, et qui entrent en conjonction avec d'autres traditions, notamment juives en France. Bon,
Premier groupe. Deuxième groupe sur lequel on parle énormément aujourd'hui et qui est porteur, lui, d'une mémoire spécifique, puisque c'est un groupe qui est né directement de la guerre, qui est constitutif de la guerre elle-même, c'est les appelés du contingent. On en a, je crois, pas mal parlé. Si j'en crois les chiffres, parce qu'il y a eu beaucoup de querelles de chiffres, on en est aujourd'hui à des chiffres qui donnent, pour les appelés qui ont fait leur service militaire en partie ou en totalité en Algérie, environ 1,2 million personnes, et dont la durée moyenne de service, à peu près, a été de l'ordre de 2 ans. Alors, si l'on croit les enquêtes qui ont été menées sur ces appelés, et surtout, ce qui est tout à fait frappant depuis une dizaine d'années, c'est leur prise de parole publique, qui n'est pas nouvelle. Je prends un exemple. Il y a eu récemment un film qui est passé à la télévision de Patrick Rothman, notamment sur les appelés. Il y avait le même film, pratiquement le même procédé, il y a 10 ans, exactement il y a 10 ans, au moment du 30e anniversaire des accords d'Évian. Et donc, bon, c'est une prise de parole qui n'est pas nouvelle, mais qui apparemment commence à en prendre dans l'ampleur. Alors, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, là encore, le sentiment, quand je parlais de guerre injuste, si j'en crois les enquêtes qui ont été faites, le sentiment, en tous les cas, d'une forme d'inutilité, une absence de reconnaissance, qui est très différent, par exemple, du statut du combattant, on le sait, puisque le débat dure maintenant depuis 1962, du combattant de la Première Guerre mondiale, et même du combattant de la Deuxième Guerre mondiale, pour ne pas parler, dans le panthéon de l'héroïsme français, du résistant, évidemment. Là, il y a quelque chose qui a été extrêmement difficile à accepter pour la société française, et sur lesquels l'État, puisque là, il y a eu un choix fait par l'État et par les différents régimes, ce n'est pas simplement la République du général de Gaulle, mais également ses successeurs, qui ont mis un certain temps, pour ne pas dire un temps certain, à reconnaître à part entière le statut de combattant, et même si j'ai bien compris, aujourd'hui, ce statut n'est pas exactement de même nature que celui qui existe pour les autres combattants des deux guerres mondiales. Et enfin, troisième groupe, qui est évidemment probablement le plus important, c'est les Algériens qui sont venus en France, soit consécutivement à la guerre, c'est le problème extrêmement douloureux des harkis, on évalue à peu près à 140 000 personnes dans l'immédiate après-guerre d'Algérie le nombre de personnes qui sont arrivées en France dans les conditions que l'on connaît, et à la suite notamment des massacres qui ont été commis en Algérie, mais il y a surtout l'immigration algérienne qui a commencé, parfois on l'oublie, pendant même la guerre d'Algérie. C'est un phénomène qui n'a pas démarré avec les accords d'Évian, c'est un phénomène qui est continu, ça faisait en gros partie de cette histoire des échanges qu'il y avait de part et d'autre de la Méditerranée. Alors ce qui est intéressant, je ne le développerai pas parce que ce n'est pas le cœur de mon propos, mais quand même cette immigration où ces Algériens français, ou qui sont devenus français, notamment la seconde génération, ont été évidemment porteurs d'une représentation totalement antagoniste des autres groupes précédents, par nature, je dirais par nature, quelles que soient par ailleurs les bonnes volontés, si tant est qu'elles existent en la matière, mais par nature de représentation totalement concurrente et divergente. Alors, je laisse de côté la question de groupes minoritaires, notamment de groupes politiques, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ceux qui ont été engagés aux côtés du FLN, mais qui ont quand même formé une génération politique, dont une partie d'ailleurs aujourd'hui est au pouvoir, c'est quand même, on le dit parfois rapidement, mais ce n'est pas sans une certaine réalité, une partie de la classe politique, notamment à gauche, qui est aujourd'hui au pouvoir, a fait ses classes, si l'on peut dire, dans la lutte contre la guerre d'Algérie à l'époque. Et puis de l'autre côté, évidemment, ce qui reste des partisans de l'Algérie française et qui quand même continuent de s'exprimer de façon assez nette, à mon sens, dans un parti comme le Front National. Mais une fois que j'ai dressé ce tableau qui est évidemment très schématique et très sommaire de ces groupes sociaux qui ont porté majoritairement une représentation de la guerre d'Algérie, il y a une question qui vient à l'esprit, qui est une question à laquelle il est très difficile de répondre. Dans quelle mesure cette guerre a-t-elle été vécue comme une expérience collective par l'ensemble des Français ? Bien sûr, encore une fois, c'est un événement qui touche l'histoire de France et a priori tous les Français de 1954 à 1962 sont touchés par cette guerre. Mais si l'on compare cette situation avec ce qui était par exemple celle de l'occupation ou encore la Première Guerre mondiale, on n'est pas du tout dans un même niveau du fait de se sentir concerné par cette guerre. Au total, si on fait des statistiques extrêmement grossières, peut-être un quart de la population française au moment de la guerre a été très directement touchée, directement parce que appelée, parce que victime, parce que etc. par la guerre d'Algérie. Reste les trois quarts de la population française qui, pour beaucoup, ont vu cette guerre avec une certaine distance, avec un certain recul, qui peut expliquer, c'est une hypothèse, je ne serai absolument pas tranché en la matière, qui peut expliquer que par la suite, une fois la guerre terminée, ce qu'on a appelé l'oubli ou le fait de tourner la page ou le fait de ne plus en parler s'est installé avec une relative facilité. Ce n'est pas simplement de la volonté d'un pouvoir politique. Il ne suffit pas qu'un pouvoir politique décide non pas de faire censure, puisque la censure a été élevée après la guerre, mais simplement de ne pas commémorer, de ne pas parler, de ne pas reconnaître tel ou tel massacre. Il ne suffit pas qu'un pouvoir politique fasse ça pour que, ipso facto, l'ensemble d'une société marche comme un seul homme et considère qu'effectivement, cet événement doit être évacué de la conscience collective. S'il a été, et ça reste à mon sens encore à prouver, mais s'il a été au moins dans un premier temps évacué, c'est peut-être, encore une fois, je mets un point d'interrogation, parce qu'une large partie des Français ne se sont pas directement ou n'ont pas été directement concernés par la guerre d'Algérie, comme ils l'ont pu l'être par l'occupation, par exemple. L'occupation, c'est quand même, à partir de 1942, l'ensemble du pays a été occupé par le Troisième Reich. Bon. Alors, mon quatrième point, et j'essaierai d'aller un peu vite, j'ai dressé là, en gros, une sorte de soubassement structurel. Qui se souvient et à quelles expériences ce souvenir est-il articulé? Maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est de retracer, disons, quelques phases d'évolution. Est-ce qu'on peut déceler, depuis la fin de la guerre, donc depuis les accords d'Évian, pour prendre une date de départ, une évolution dans la manière dont cette guerre a été représentée dans l'espace public, et notamment dans la manière dont l'État et un certain nombre de groupes concernés se sont emparés du problème et ont essayé de le mettre sur la place publique, ou au contraire, ont essayé de le refouler. Et on trouve, lorsqu'on fait ce petit travail, qui doit d'ailleurs beaucoup à certains de mes collègues, notamment à Benjamin Stora et d'autres, lorsqu'on fait ce survol, cette évolution, on trouve un cycle qui rappelle, à mon sens, de très près ce qui s'est passé pour la mémoire de Vichy. On a une phase de liquidation de la guerre, c'est-à-dire une phase immédiate qui suit les accords d'Évian, où le problème essentiel, c'est la liquidation des séquelles de la guerre, avec au cœur la question de l'amnistie. On a une phase de relative amnésie, en tous les cas, le problème de la guerre d'Algérie est évacué de l'espace public, il disparaît, du moins si l'on essaie de voir un certain nombre de repères visibles. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il disparaît des consciences individuelles, mais ça veut dire qu'il disparaît de l'espace public. Et puis, une séquence qu'on appellera de manière savante l'anamnèse, c'est-à-dire le retour de mémoire, une remise en mémoire, la réapparition de cette guerre dans le débat public, qui apparaît dans les années 80, à partir du début des années 80. Et aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, on est dans un phénomène qu'on a connu également pour la mémoire de Vichy, et qu'on pourrait appeler l'hypermnésie, un terme un peu savant, mais qui est une sorte d'obsession mémorielle, une sorte de présence obsédante de ce passé, qui est due, bien sûr, à des anniversaires, le 40e anniversaire des accords d'Évian, mais qui est due probablement à d'autres raisons structurelles. Alors, si je les prends une par une, ces phases, et en allant assez vite, parce que je n'ai pas le temps de développer, la première, la liquidation de la crise, elle s'étend, ou de la guerre, elle s'étend de 1962, évidemment, jusqu'en 1968. 1968 étant la promulgation de la dernière, ou de l'avant-dernière grande loi d'amnistie concernant les faits commis durant la guerre d'Algérie. Alors, je voudrais dire juste quelques mots sur l'amnistie, parce que c'est un processus à la fois extrêmement important, un peu mal connu, et sur lequel on dit des choses parfois qui ne sont pas tout à fait exactes. D'abord, la question de l'amnistie est classique, en France, en tous les cas, dans l'histoire de France, après toute crise profonde interne. Les grandes amnisties dans l'histoire de France, il y en a essentiellement trois, enfin, pour schématiquement. Après la Commune, un débat très profond sur la nécessité d'amnistier les communards, pas les Versaillais, d'amnistier les communards, dans lesquels s'est distinguée notamment la figure de Victor Hugo. L'amnistie qui suit la Seconde Guerre mondiale, et qui a été une amnistie qui fait suite à une épuration assez importante, et qu'il s'agissait là d'amnistier les faits de collaboration. Et alors, vous remarquerez d'ailleurs que dans ces deux cas, c'est un camp qui est visé. Encore une fois, je ne fais pas de jugement de valeur ni hiérarchie, mais c'est toujours un camp. Là, on amnistie toujours un camp, fondamentalement, puisque c'est au fond les vainqueurs, dans une sorte de guerre civile, qui offrent ou acceptent l'amnistie pour ceux qui ont été vaincus. Dans le cas de la guerre d'Algérie, on a une situation différente, puisque ce n'est pas simplement un camp qui a accordé l'amnistie à l'autre, mais il y a eu des amnisties, disons, réciproques et croisées. Très rapidement, il y a eu quatre amnisties, pour aller vite, c'est important, donc ils se sont étalés entre 62 et 68. La première, elle est incluse dans les accords d'Évian, elle est fondamentale parce qu'elle implique la réciprocité de l'effacement des crimes, hein, c'est ça une amnistie, on efface les peines, on les enlève du casier judiciaire sur le plan juridique, il y a un oubli juridique, hein, là pour le coup le mot oubli est totalement adapté, c'est exactement ça, c'est un oubli juridique, d'aucuns disent d'ailleurs que c'est une fiction juridique, parce que dire que la société oublie ce crime ne signifie en aucun cas que sur le plan de la réalité ce crime n'a pas été commis, c'est bien là le problème, puisque s'il a été commis il y a des victimes et des victimes qui se souviennent, mais l'État, pour des raisons... on appellera la raison d'État, décide l'amnistie. Alors, il y a eu l'amnistie dans les accords d'Évian, qui était une amnistie réciproque entre Français et Algériens. Il y a eu l'amnistie progressive en ce qui concerne notamment ce qu'on a appelé les porteurs de valises, c'est-à-dire ceux qui ont aidé le FLN dans sa lutte. Et un des débats qui s'est prolongé jusqu'en 1968 et la dernière grande amnistie générale a été évidemment la question de l'amnistie des faits commis dans le cadre de la lutte terroriste de l'OAS. Alors, ce qu'il faut quand même dire en ce qui concerne l'amnistie, parce qu'on a toujours l'impression qu'une amnistie, ça tombe comme ça de haut, c'est l'État qui décide, pas du tout. Une amnistie, c'est une loi, donc c'est le législateur qui promulgue l'amnistie. Hein, la grâce présidentielle, c'est le chef de l'État, c'est lui qui l'octroie, mais l'amnistie, c'est le Parlement. Ça veut dire que c'est la souveraineté nationale. Alors, on observe dans la plupart des lois d'amnistie qui ont été votées, que ça fasse plaisir ou pas, hein, la question n'est pas là, qu'il y a eu une certaine unanimité, il y a eu un certain consensus, même s'il y a eu des débats extrêmement vifs sur la nécessité de promulguer ou pas ces lois d'amnistie. Mais là encore, on est dans une perspective qui veut que la raison d'État oblige à oublier le conflit avec l'Algérie, donc à faire l'amnistie réciproque, et oblige, à partir d'un certain stade, à oublier les crimes qui ont été commis à l'intérieur, quel que soit le côté duquel ils sont venus. Ce qui a, à mon sens, enfin, c'est une interprétation que je fais, était peut-être une nécessité, je ne me prononce pas sur cette évidence, mais c'est une nécessité qui a laissé des traces profondes, parce qu'on a eu le sentiment d'une injustice qui s'est rajoutée à l'injustice des souffrances qui ont été subies. Et en plus des injustices qui ont été commises de toutes parts, même si on peut, je ne fais aucun équilibre dans la terreur, simplement j'essaie de comprendre comment le problème a survécu dans la société par la suite. La deuxième période, c'est ce qui concerne les silences, les tabous, c'est la phase qui est dite de l'oubli. Je ne vais pas m'étendre, la guerre d'Algérie n'apparaît plus dans l'espace public, relativement, si quand même on regarde un peu près, par exemple, le nombre d'ouvrages publiés dans les années 60 et dans les années 70, on arrive quand même à un millier d'ouvrages. Aujourd'hui, on en est, je crois, enfin, je cite de mémoire, à peu près 2500 ouvrages, tout confondu, les romans, les témoignages, les livres d'histoire, ce qui n'est pas négligeable quand même. Hein. On ne peut pas dire que c'est un sujet qui a été complètement oublié dans la conscience française. 2500 ouvrages, c'est quand même c'est que ça existe. Une bonne partie d'entre eux ont été rédigés dans les années 60-70. Une bonne partie d'ailleurs sont des témoignages qui viennent soit des pieds noirs d'un côté, soit des partisans de l'Algérie française. C'est la première vague de témoignages. Et ce qu'on observe d'ailleurs avec le recul, c'est qu'au fur et à mesure qu'on se rapproche d'aujourd'hui, les témoignages changent de nature, de plus en plus d'appelés, et même, on l'a vu récemment, de plus en plus d'Algériens, de plus en plus d'Algériens victimes de la torture, voire de plus en plus d'Algériennes, c'est-à-dire de femmes qui prennent la parole dans cette tendance. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a une volonté politique de tourner la page. Je prendrai un exemple qui est intéressant, c'est le septennat de Valéry Giscard d'Estaing. En janvier 1975, le général Bijard accède au secrétariat d'État à la Défense. Ça a quand même une certaine signification d'un point de vue politique. Encore une fois, on en pense ce qu'on en veut, mais du point de vue de la mémoire de la guerre d'Algérie, ça a une certaine signification. C'est en janvier, en avril, le même Valéry Giscard d'Estaing fera la première visite officielle d'un chef d'État français depuis les accords d'Évian en Algérie. Donc il y a cette idée, un peu sommaire d'ailleurs, mais qui est classique, disons, dans la façon dont les politiques instrumentalisent ou envisagent le passé, d'une sorte de balance. Bon. Et puis, alors, c'est une période quand même qui dure longtemps, hein, je ne m'étends pas, parce que par définition, pour l'historien, il est très difficile de parler du silence, hein, c'est très difficile de disserter sur une absence. Mais il est clair que cette guerre d'Algérie, en plus dans une phase qui a été d'abord celle de la croissance et celle de la crise, n'est pas à l'ordre du jour. À partir des années 80, on va voir poindre ce phénomène qui est le retour de ce passé, avant qu'il ne passe pas, mais c'est d'abord le retour à la conscience publique de ce passé, avec plusieurs éléments que je vais énumérer sans avoir le temps vraiment de développer, mais qui sont quand même très importants. Le premier, c'est l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981, qui va changer un certain nombre de choses. D'abord parce que une bonne partie de cette gauche, en tout cas une partie de cette gauche, encore une fois, a vécu la guerre d'Algérie et notamment dans le combat contre le colonialisme, et elle est dirigée par un homme qui a été un des principaux acteurs de la guerre d'Algérie, pas toujours exactement dans le même sens d'ailleurs, ce qui va poser, on le sait, quelques petits problèmes, et notamment la dernière loi d'amnistie, celle qui a fait couler le plus d'encre, qui est de 1982, qui n'était pas d'ailleurs à proprement parler une loi d'amnistie, puisque c'était plutôt une loi qui a prévu la réinsertion d'un certain nombre de fonctionnaires, militaires, policiers, gendarmes, etc., qui avaient été condamnés pour des faits commis, notamment dans le cadre de l'OS. Vous le savez, enfin, c'est peut-être frais encore dans les mémoires, ça a provoqué un débat extrêmement violent. Donc ça, c'est le premier... Il y a un phénomène politique qui va jouer énormément dans cette anamnèse, dans ce retour de mémoire. Il y en a un deuxième qui, à mon avis, un phénomène qui est un phénomène extrêmement important, dont j'ai déjà parlé. C'est la prise de conscience progressive derrière le vocable sommaire, et Dieu sait si beaucoup d'encre a coulé là-dessus, vocable sommaire d'immigrés, hein, entre guillemets, là, une bonne partie de ces immigrés, on le sait, étant tout simplement français, constitue un phénomène social de grande ampleur. Il s'agit évidemment des Algériens en France, et il y a à partir de ce moment-là, non pas chez eux, non pas à l'intérieur de cette communauté, si tant est qu'il y a une homogénéité, mais du point de vue de la société française, une prise de conscience de l'existence de ce groupe social, de cette communauté, qui a, elle, un discours sur l'histoire, sur l'Algérie, évidemment pas peut-être encore constitué, mais qui commence à se constituer et qui n'a pas grand-chose à voir avec le discours officiel tenu jusque-là. Je passe sur des corollaires qui sont quand même très importants également sur le plan politique. La montée d'une extrême droite, hein, qui va, elle, réactiver le discours de l'Algérie française. Si l'on veut faire une analyse très sommaire du Front National, aussi objectivement qu'on puisse le faire, le Front National, dans sa composition et dans son discours, tient plus de l'Algérie française et de la nostalgie de l'Algérie française et du combat mené au nom de l'Algérie française que du pétainisme. Bon, je n'ai pas le temps de développer, mais ça me semble un des éléments de cette remontée en mémoire de la guerre d'Algérie, évidemment, d'un tout autre bord. C'est à ce moment-là également, alors vous me direz c'est mineur, mais c'est quand même pas négligeable, surtout pour l'historien qui parle, c'est le début d'une historiographie, c'est-à-dire c'est le début de la production de thèses, d'ouvrages savants, c'est le début de l'ouverture des archives, timide mais quand même réelle, quoi qu'on en dise. Donc il y a à ce moment-là un changement qui n'est pas brutal, qui n'est pas dramatique, hein, mais qui est un changement. Je peux en donner encore une fois quelques exemples, quelques jalons, mais qui sont des éléments. Avant l'arrivée de la gauche au pouvoir, en 1980, le journal Libération, à ma connaissance, est le premier à publier une enquête extrêmement développée, même s'il est probablement erroné sur le fond, sur le 17 octobre, le 17 octobre 61. Sur trois pages et en première page, nous sommes en octobre, très exactement d'ailleurs le 17 octobre 1980, donc ça fait il y a maintenant 22 ans, Libération remet cet événement, sur la place publique, sans d'ailleurs avoir d'écho. Hein, il faut le dire, à l'époque, l'écho n'a rien à voir avec l'écho qu'il a eu, que ce problème a eu dans les années 90. Autre élément comme ça, en 1981, c'est le début de l'affaire Papon. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on va s'intéresser à Maurice Papon, non simplement ancien secrétaire général de la préfecture de la Gironde, mais également préfet de police de Paris. En 1980 également, et ça peut vous rappeler des souvenirs très récents, puisque c'est d'à peine quelques jours ou de quelques semaines, le ministre des anciens combattants de l'époque, je crois que c'était Jean Lorrain, lance le débat sur le 19 mars comme date commémorative unifiante. Hein, c'est un élément tout à fait récurrent dans l'histoire de la mémoire de cette guerre, la recherche d'une date qui pourrait symboliser, le souvenir à la fois de tout ce qui s'est passé, de toutes les actions commises et de toutes les victimes, ce qui est, à mon avis, une gageure. C'est une chose qui a été avortée, malgré le soutien d'un certain nombre d'associations, et qui est revenue à la surface périodiquement en 1991, et il y a encore quelques semaines, vous le savez, le gouvernement actuel a retiré un projet de loi concernant la commémoration du 19 mars, parce qu'il avait peur que le Sénat ne la valise pas. Donc ça veut dire qu'il y a encore aujourd'hui, pour des raisons sur lesquelles on peut discuter, une forte résistance. Bon, ça, c'est la période de l'anamnèse. J'en viens à ma dernière période, pour essayer de tenir mes 50 minutes. C'est ce que j'ai appelé le temps de l'hypermnésie, c'est-à-dire où, peu à peu, cette guerre d'Algérie, qui était absente, considérée à tort ou à raison comme tabou, encore que vous avez compris que je n'aime pas ce terme, qui n'appartenait pas à l'espace public ou à la conscience collective, non seulement fait sa réapparition a fait sa réapparition dans l'espace public, mais va devenir un de ces débats polémiques récurrents dont la société française a le secret depuis toujours. Hein, c'est une de ces constantes de son histoire. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cette présence relativement massive, en tous les cas massive, par rapport aux périodes précédentes, hein, entendons-nous, il s'agit d'une mesure à la fois très sommaire et relative. Alors, il y a plusieurs causes que je vous énonce, encore une fois, de façon extrêmement cavalière. Il y a des causes extérieures, dans tout mon exposé, j'ai laissé à l'arrière-plan le contexte international, parce que je n'avais pas le temps de le développer, c'est un élément absolument fondamental. En ce qui concerne l'interrogation, les controverses, les conflits d'interprétation sur la nature de la guerre d'Algérie dans les années 90, c'est évidemment la situation en Algérie qui va être un des moteurs, un des détonateurs, avec les comparaisons que l'on peut faire, à tort ou à raison, et surtout avec cette évidence, ce qu'on peut qualifier de retour de la violence, et une violence qui est accolée, encore une fois, à un pays qui en somme comme frappé d'une sorte de malédiction. Je ferme la parenthèse. Ce qui est très important de savoir, c'est que la guerre d'Algérie, et je le dis rapidement sans être un connaisseur de la situation algérienne, est un élément essentiel dans le débat algérien. Hein. La position par rapport à la guerre d'Algérie, la position notamment que l'on a par rapport à la France, donc par rapport à l'ancien colonisé, est un des éléments cruciaux du débat en Algérie à l'heure actuelle. Et donc il est évident que cette guerre, et les interprétations qu'on peut en faire, retrouvent une certaine actualité. Cause extérieure, alors il y en a d'autres évidemment, la guerre du Golfe, le conflit israélo-palestinien, qui est une sorte de constante qui va alimenter par référence le débat sur la guerre d'Algérie. Il y a une deuxième cause dont j'ai beaucoup parlé, sur laquelle je ne vais plus m'étendre, c'est la question des générations. Alors, j'ai parlé de la deuxième génération, celle qui va se découvrir française, celle qui va redécouvrir le problème. On est aujourd'hui face à la troisième génération, c'est-à-dire celle des petits-fils. Et ce qui est très intéressant pour l'historien, c'est que la question de la troisième génération, c'est une constante lorsque on analyse des événements traumatiques. On a retrouvé exactement le même phénomène dans la question de la mémoire de la Shoah, où ceux qui ont porté le plus, quelles que soient par ailleurs les modalités avec lesquelles ils l'ont fait, ceux qui ont porté le plus le combat sur la mémoire de la Shoah, souvent avec une certaine agressivité, une certaine pugnacité, une certaine forme de revendication, émanent de la troisième génération. Il y a un phénomène d'ailleurs que les anthropologues connaissent, qui joue dans la troisième génération, qui ne joue pas de la même manière dans la première et dans la deuxième. Bon. Et puis, un troisième élément, et c'est ce que j'avais annoncé en introduction, sur lequel je vais dire quelques mots, et que je viens d'évoquer, c'est le parallèle qu'on peut faire dans les années 90 entre la façon dont la guerre d'Algérie est remémorée dans l'espace public, avec un certain excès parfois, et ce qui s'est passé pour la mémoire de Vichy. Alors là, ce que je voudrais faire, ce n'est pas comparer le fond du problème, ce n'est pas essayer de faire une sorte de comparaison historique entre Vichy et l'Algérie. Nous sommes devant deux situations historiques qui sont difficilement comparables. Mais je voudrais m'attacher à ce que j'appellerais les modalités, une sorte d'anthropologie de la façon dont la société française se comporte à l'égard de son passé. Ce que j'ai appelé, d'un mot un peu savant, le paradigme de la mémoire de la Shoah. Et je fais bien attention à ce que je dis, c'est-à-dire le type de combat, le type de résultat, le type de procédure qui a été utilisé pour remettre en mémoire et obtenir un certain nombre de choses dans la reconnaissance du génocide ont été utilisés, avec plus ou moins de succès, dans le cas de la mémoire de la guerre d'Algérie, ce qui est tout à fait différent que de dire qu'il s'agit d'événements de même nature. Alors, très rapidement, j'en énumère quelques-uns qui, à mon avis, font un petit peu système, même si je ne suis pas sociologue et je ne vais pas vous faire la théorie. Le premier, c'est d'abord la valorisation de la mémoire et de la parole et la condamnation irrévocable de l'oubli et du silence. Nous sommes aujourd'hui, lorsqu'on parle de la guerre d'Algérie, devant une évidence. Tout ce qui est vu rétrospectivement comme du silence ou de l'oubli, volontaire ou pas, est considéré comme condamnable. Et en retour, qu'est-ce qu'on met en évidence ? Le devoir de mémoire, c'est-à-dire une sorte de nécessité impérieuse d'inscrire cet événement dans la mémoire. Ce qui pose d'ailleurs une infinité de problèmes sur lesquels je n'ai pas le temps de développer. Je vous renvoie notamment au livre magistral de Paul Ricoeur. Est-ce qu'on peut commander la mémoire ? Est-ce qu'on peut se souvenir de manière obligatoire ? Est-ce qu'on peut parler de devoir de mémoire ? Mais c'est quelque chose de tout à fait net qui, à mon sens, donne une certaine idée de la façon dont aujourd'hui on considère le passé. Parce que ce qui va avec le devoir de mémoire, c'est d'une certaine manière la repentance, hein, la repentance qui a existé du côté de la mémoire de Vichy, repentance de l'Église de France, repentance d'un certain nombre de corps, par exemple les policiers, repentance de l'État français, puisque après tout Jacques Chirac a reconnu, sinon il s'est repenti, la responsabilité de la France. Donc on dit, sur les mêmes modalités, puisque ça a marché, pardonnez-moi cette expression, pour la mémoire de la dernière guerre, pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas être appliqué pour la mémoire de la guerre d'Algérie ? Évidemment, c'est que ce n'est pas transposable aussi facilement. La deuxième chose, c'est la valorisation des témoignages, qui est très important, c'est-à-dire, bien sûr, les témoignages ont toujours existé, témoignages écrits, témoignages oraux, mais il y a, on l'observe aujourd'hui dans les sociétés développées par rapport au passé, ce qui est mis en scène, c'est moins, par exemple, la parole des historiens, c'est moins le récit élaboré, structuré, c'est moins, disons, l'analyse que le témoignage, que quelque chose qui est de l'ordre du vécu, de l'expérience directe dont on a le sentiment, parce qu'il y a témoignage, elle est directement transmise à ceux qui l'écoutent. Il y a surtout un troisième élément qui me paraît extrêmement important et qui d'ailleurs ne s'observe pas uniquement en France, c'est un phénomène qu'on observe à l'échelle internationale, c'est la question de la réparation. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'épisodes traumatiques de l'histoire, on ne dit pas simplement « il faut en prendre conscience, il faut qu'il soit dans la conscience collective, il faut en parler ». Non, on dit plus « il faut réparer ». Il faut agir rétroactivement sur le passé, ce que les Allemands appellent la Wiedergutmachung, ça veut dire refaire, réparer en fait, littéralement, mais refaire les choses en mieux. On l'a vu, pour lequel la mémoire de Vichy, c'est éclatant. Que sont les procès qui ont été intentés contre Barbie, Touvier et Papon, sinon, bien sûr, rendre la justice, ça va de soi, mais aussi une façon de dire ce qui a été fait après la fin de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, a été mal fait, donc il faut le refaire. Il faut le refaire en mieux, puisque notre génération, notre présent, a une meilleure lucidité sur le passé, évidemment. Alors, cette réparation en ce qui concerne la guerre d'Algérie, elle est réelle, puisque les demandes se sont multipliées dans les années 90, accélération des indemnisations et reconnaissances, notamment en ce qui concerne les combattants, érection d'un monument national aux morts d'Algérie, y compris les civils, ce qui est une nouveauté dans la liturgie des guerres, hein, c'est-à-dire qu'on commémore à la fois les morts civiles et les morts militaires. En 1996, c'est à Paris, à la butte du Chapeau Rouge, plaque sur le 17 octobre, mais qui est une initiative municipale et non nationale, donc qui commémore le 17 octobre 61. Débat sur lequel je n'ai pas le temps de m'étendre, sur la requalification de la guerre par le Parlement. Vous savez qu'en 1999, le Parlement a pris, par une décision législative, c'est un acte fort quand même, a déclaré la guerre d'Algérie, c'est-à-dire a dit rétrospectivement ce qu'on appelait les événements étaient une guerre. Bon. Ce qui pose d'ailleurs, à mon sens, une infinité de problèmes, parce qu'on peut considérer qu'avec le recul, il aurait fallu déclarer la guerre d'entrée de jeu, côté français, j'entends côté l'État français, ce qui d'ailleurs, de manière un peu paradoxale, aurait signifié immédiatement la fin de la guerre, puisque si on avait déclaré le 1er novembre 1954 la guerre, ou si on avait reconnu que c'était une guerre, la guerre s'arrêtait d'elle-même, puisque c'était reconnaître la souveraineté des combattants et des opposants, hein, ce qui était précisément l'enjeu de la guerre d'Algérie. Bon, ça ce sont des, disons, des arguties juridiques. Ce qui est très important pour l'historien que je suis, c'est qu'en requalifiant la guerre rétrospectivement, qui d'ailleurs a toujours été qualifiée comme telle depuis 1962, hein, n'en déplaise aux députés, mais ce qui est important dans cette affaire, c'est une forme d'anachronisme, c'est-à-dire on refait mieux, on dit mieux, on qualifie mieux aujourd'hui ou après coup ce qui s'est déroulé pendant, et ce qui est une attitude par rapport au passé qui me paraît tout à fait caractéristique de notre présent. Et qui va de pair avec un dernier phénomène, et je vais m'arrêter là-dessus, c'est ce qu'on appelle la judiciarisation du passé. Ça veut dire qu'encore une fois, on ne se contente pas de prendre conscience, on ne se contente pas de réparation financière ou symbolique, il y a la volonté de faire des procès. Procès d'ailleurs parfaitement légitimes, en général visant d'authentiques bourreaux, hein, en tous les cas pour ce qui concerne les procès pour la période de Vichy. Pour la période de la guerre d'Algérie, on le sait, le problème a été juridiquement réglé. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas qu'il le soit ou pas, ce n'est même pas qu'il soit légitime ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est une modalité par laquelle on considère que la mémoire va se perpétuer. Le combat autour des procès, de faire par exemple des procès pour crimes contre l'humanité au sujet de la torture, ce qui est juridiquement impossible et même sur le fond me paraît invraisemblable, puisque la torture est par définition le crime de guerre, c'est vraiment le crime de guerre par définition, la volonté d'en faire un crime contre l'humanité, le recours au Parlement pour qualifier la guerre, encore une fois, c'est un acte législatif, mais donc c'est un acte juridique, ça pose quand même une question sur la façon dont nous envisageons le passé. Avons-nous besoin de la loi ? Avons-nous besoin des juges pour comprendre et analyser notre passé ? C'est une question que je pose, hein, j'ai ma réponse comme historien et comme citoyen, je la laisse ouverte. Mais encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est cette forme de judiciarisation du passé, qui est une sorte de mimétisme par rapport à ce qui s'est passé sur la mémoire de Vichy, mais qui est un phénomène international. C'est une des conséquences à la fois de la judiciarisation des sociétés contemporaines, du fait qu'un certain nombre de problèmes, et de plus en plus de problèmes, sont portés devant des tribunaux, et du fait que, depuis Nuremberg, il existe des législations internationales qui, d'une certaine manière, portent atteinte à la souveraineté des États, hein, en ce qui concerne les crimes commis durant des conflits. Et en ce qui concerne la guerre d'Algérie, je ne dirai qu'un mot là-dessus, parce que je n'ai pas le temps, ce serait un développement juridique qui me prendrait un certain temps. Les magistrats qui ont eu à connaître la question du crime contre l'humanité sur les dossiers Barbie, Touvier et Papon, puisqu'il y a eu toute une jurisprudence qui s'est développée, ont fermé, plus ou moins volontairement, c'est même a été dit de manière assez explicite par certains, ont fermé la porte judiciaire pour qu'il n'y ait pas d'inculpation possible de crimes contre l'humanité en ce qui concerne les événements d'Algérie. Ont-ils eu raison, ont-ils eu tort ? Encore une fois, c'est à l'appréciation de chacun. Bon. Alors, je voudrais conclure ce rapide survol donc, de mes phases, de ces quatre phases que j'ai mises en évidence, en disant que si, de manière beaucoup plus profonde, si la guerre d'Algérie constitue un problème de mémoire évident, probablement le principal problème de mémoire avec la question de Vichy en France, c'est pas simplement parce que l'épisode a été tragique, il y a d'autres épisodes tragiques de l'histoire de France, c'est pas simplement parce qu'il a suscité des représentations conflictuelles et concurrentes, mais c'est parce qu'il a brassé de fait, l'événement lui-même et sa postérité ont brassé de fait plusieurs problèmes absolument cruciaux. Il y a le problème de l'identité nationale, c'est-à-dire de la définition de la nation, avec la place qu'on va accorder plus ou moins bien dans le cadre des vagues successives d'intégration à ces communautés qui sont venues d'Algérie ou qui sont nées de la guerre d'Algérie ou qui ont été constituées en tant que telles par la guerre d'Algérie. Il y a évidemment des problèmes géostratégiques sur lesquels je n'ai pas le temps de m'étendre, mais le problème de la guerre d'Algérie, c'est bien entendu le problème du rapport entre la France et l'Algérie, histoire par définition conflictuelle. C'est l'histoire de la France par rapport à ce qu'on nomme d'un terme compliqué, parce qu'il a du mal à embrasser la complexité du problème, le monde arabo-musulman. C'est aussi quelque chose qui est au cœur du problème du conflit du Proche-Orient. Il faut quand même rappeler que la guerre d'Algérie est directement liée au conflit du Proche-Orient. L'intervention de Suez, par exemple, en 1956 par la France, était directement liée à l'interprétation que la France faisait, à ce moment-là, à tort d'ailleurs, à savoir que Nasser, emblème du tiers-monde, était le soutien principal du FLN et donc jouait contre les intérêts de la France. Donc depuis l'origine, la guerre d'Algérie n'est pas simplement une guerre coloniale, c'est pas simplement, et c'est peut-être ce qui me frappe aussi dans les débats actuels sur la guerre d'Algérie, une sorte de face-à-face entre la France et l'Algérie, ou entre la France et son passé, c'est bien l'analyse d'un moment important de la place de la France dans le monde. Bon, et c'est, je dirais, son accession après la crise de la Seconde Guerre mondiale, où la France a accédé au rang a perdu son rang de grande puissance, avec la guerre d'Algérie, elle perd définitivement son statut de puissance impériale. Donc à partir de là, il est clair que la guerre d'Algérie est au cœur de l'identité nationale française. Et puis il y a deux autres problèmes sur lesquels je vais vraiment pour le coup terminer. Le premier, c'est tout un débat qui est sous-jacent à mon avis dans le débat sur la guerre d'Algérie, qui est la nature de l'État français. Je n'ai pas le temps de développer, mais je vais prendre un exemple. Ce qui s'est joué dans le procès Papon, qui a quand même été un événement assez important dans l'histoire récente, ce n'est pas simplement la mémoire de Vichy, ce n'est pas simplement la reconnaissance de la complicité de la France dans les crimes commis dans le cadre du génocide, ce n'est même pas simplement la guerre d'Algérie à travers la fonction de préfet de police de Maurice Papon, c'est une condamnation implicite, évidemment, parce que la justice, ce n'est pas le rôle de la justice, elle n'en avait pas les moyens directs, mais dans les discours qui ont accompagné ce procès, il y avait la condamnation d'un certain type de comportement étatique, la condamnation d'un certain type de raison d'État qui trouve directement son expression à la fois dans la Seconde Guerre mondiale et dans la guerre d'Algérie. Et puis, je terminerai par une hypothèse, parce que ce qui me frappe, pour en revenir au propos de départ, de ce présumé ou présupposé tabou qui en fait envahit les colonnes de nos journaux, aujourd'hui, en tous les cas depuis longtemps. Au fond, j'ai le sentiment, mais c'est une impression que je vous livre, ce qui est mal assumé ou inassimilé, ce n'est pas tant la torture ou les crimes commis par l'État, parce qu'au fond, on l'a vu avec la question de Vichy, il suffirait qu'un président ou un premier ministre prenne cette initiative, et d'ailleurs, on peut se dire que peut-être elle sera prise, si c'est bien ou si c'est pas bien, encore une fois, je ne le juge pas. Ce n'est pas tellement ça qui me paraît difficile à assimiler ou à assumer. Ce qui me paraît difficile à assumer, c'est le problème de la colonisation en tant que telle. C'est-à-dire ce que masque d'une certaine manière, même si c'est dit de ci de là, ce que masque la guerre d'Algérie, c'est le fait que c'est la crise terminale d'un processus qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus long, beaucoup plus ancien et beaucoup plus ambivalent surtout. Lorsque je dis la colonisation, je veux dire par là à la fois la prise de conscience de ce qu'a été la colonisation comme système oppressif, c'est un impérialisme, ce n'était pas le seul, hein, et ce n'était pas le seul dans l'histoire, petite parenthèse, mais c'est aussi tout un phénomène d'acculturation, évidemment forcée, évidemment contrainte, mais qui a laissé des séquelles qui ne peuvent pas toutes se décliner sur le mode du crime. On ne peut pas, je parle là sur le plan de l'analyse, non pas sur le plan de l'opinion, considérer qu'aborder le problème de la colonisation qui est derrière la guerre d'Algérie et qui est sous-jacent dans notre mémoire aujourd'hui pourrait se résumer à une condamnation du colonialisme comme crime. Ce serait, à mon sens, totalement insuffisant. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est la prise de conscience des conséquences à long terme de ce qu'a été cette colonisation. Et je dirais, pour terminer sur ce que j'ai essayé de développer pour la période d'aujourd'hui, cette sorte d'activisme sur le passé, cette idée qu'on va refaire le passé en mieux, on va le réparer, il me semble personnellement qu'il ne sert à rien de refaire le passé, mais par contre, il est beaucoup plus difficile de l'accepter dans toutes ses dimensions, et c'est en cela, à mon sens, et dans sa complexité, évidemment, et dans ses contradictions qui ne seront jamais résolues. Ces contradictions, à mon sens, existeront à jamais comme mémoire du passé, mais tout l'intérêt de l'histoire et de la mémoire, c'est précisément de les accepter comme contradictions. Merci.
Je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe lorsque, en tant que technicien de l'histoire, professeur d'histoire, vous êtes à plusieurs à vous réunir. Est-ce que vous arrivez à un certain consensus sur les hypothèses et conclusions, ou bien est-ce que vous vous heurtez à des oppositions qui vous paraissent pour le moment irréductibles ?
C'est une vaste question. Écoutez, je vous mentirais en disant que tous les historiens sont d'accord sur l'interprétation de la guerre d'Algérie, c'est évident. C'était même une des choses que je n'ai pas eu le temps de développer. Si je reprends ma comparaison avec la période de Vichy, et contrairement aux apparences d'ailleurs, sur la période de Vichy, il y a très peu de querelles d'historiens, très peu. C'est-à-dire qu'il y a des querelles techniques, il y a des querelles de chiffres, ah bon, ça à la limite, c'est ce que vous appelez la technique de l'histoire. Mais il n'y a pas de querelle fondamentale qui opposerait deux systèmes de représentation totalement antagonistes. Il y a un certain consensus aujourd'hui, à la fois parmi les historiens et je crois dans le public, dans l'opinion, pour aborder cette période. En ce qui concerne la guerre d'Algérie, pas du tout, puisque par définition, il y a, selon le point de vue dans lequel on se place, il y a une interprétation qui va faire de l'autre, soit un criminel, soit un autre, avec lequel on a eu un certain nombre de problèmes quand même relativement graves, etc. Et le rôle de l'historien, ce n'est pas de prendre parti, de savoir si, par exemple, c'est le point de vue de l'histoire officielle algérienne qui prévaut sur l'interprétation de la guerre d'Algérie, ou si c'est celui des Pieds-Noirs, ou si c'est celui des anciens de l'OS, ou je ne sais quoi. C'est d'essayer de comprendre ces interprétations et de fournir, par ailleurs, un certain nombre d'éléments incontestables. Mais c'est précisément le type d'événement sur lesquels les éléments incontestables sont très difficiles à établir. Je n'en prendrai qu'un, et là encore, on trouve la même chose pour les deux guerres mondiales, un bilan des victimes de tous côtés, de tous bords, de toutes catégories, qui soit relativement fiable, avec des fourchettes d'erreurs de moins de 5%. C'est aujourd'hui impossible, si j'en crois les spécialistes.
Ma question sera très courte, bien qu'elle soit une bonne question doit être précédée d'un commentaire, il n'y en aura aucun. Si ce n'est les derniers mots que vous avez dit, activisme sur l'histoire, désir de refaire l'histoire, réécriture. Alors, je poserai la même question que celle qui a déjà été posée, mais d'une autre façon, avec un mot qui peut paraître un peu une bombe, mais il faut le prendre au sens strict du terme. Est-ce du révisionnisme ?
Oui, j'ai une question.
Qu'est-ce qui est du révisionnisme ? Oui, si vous voulez. Enfin, le problème des mots, c'est qu'aujourd'hui, ils ont une charge. Alors, dès qu'on prend le mot révisionnisme, on pense tout de suite au négationnisme. C'est pour ça que, heureusement, on a changé la qualification, hein, pour parler comme un juge. Mais oui, d'une certaine manière. Mais je ferai quand même la distinction entre deux choses. L'opération historique, bien entendu, est une révision permanente. Enfin, j'énonce là une trivialité, une banalité. Et donc, jusqu'à la fin des temps, des historiens français ou non français se pencheront sur la guerre d'Algérie et réviseront constamment qui le bilan, qui les interprétations, etc. Ce n'est pas de ça dont j'ai parlé. Je n'ai pas parlé de ça. Moi, j'ai parlé, quand je dis refaire le passé, je parle dans l'espace public d'un certain nombre, soit de groupes qui posent un certain nombre de revendications, et surtout de l'État, puisque justement, un des centres de mon exposé, c'est l'attitude des pouvoirs publics et de l'État qui prend ou pas en compte cette idée de refaire le passé. Mais il ne s'agit pas, oui, bien sûr, c'est du révisionnisme, au sens où c'est une révision qui nécessite une révision de l'histoire au préalable. Pour prendre l'exemple qui n'est pas la guerre d'Algérie, mais qui est... restons dans la guerre d'Algérie. Prenons le cas du 17 octobre, qui est extrêmement intéressant. À en croire certains débats, on a le sentiment que la guerre d'Algérie s'est résumée à ce massacre incontestable du 17 octobre, sur lequel d'ailleurs les historiens ne sont pas d'accord, du nombre de morts, etc. Mais le 17 octobre, en tant que date anniversaire, a lui-même une histoire, hein, jusque dans les années 80, et ceux-là même qui aujourd'hui, notamment le Parti communiste ou à l'Humanité, ont fait du 17 octobre une revendication, qui d'ailleurs me semble a priori légitime, mais jusque dans les années 80 n'en parlait pas. Quelle était la commémoration qu'on mettait en avant, et qui d'ailleurs revient d'une certaine manière au goût du jour, c'est Sharon. Enfin, pour des gens qui ont un certain souvenir de ce qui était la commémoration de la répression de l'État contre ceux qui étaient, contre la guerre d'Algérie, c'est Sharon, c'est ça l'événement emblématique. C'est depuis une dizaine d'années qu'il y a eu, disons, une sorte de transfert vers le 17 octobre. Alors on pourrait y voir une sorte de justice de l'histoire. C'est vrai, c'est très bien que cet événement-là soit aujourd'hui connu, analysé et voire même identifié par des plaques. Mais n'ayons pas d'angélisme. Hein. C'est-à-dire que si le 17 octobre aujourd'hui est inscrit de meilleure manière que précédemment dans notre conscience, c'est parce qu'il y a eu des groupes porteurs qui ont agi comme ils ont agi, on peut être d'accord ou pas d'accord, et parce qu'il y a eu une écoute du point de vue de l'État. Mais ça pose quand même à chaque fois une série de problèmes. Parce qu'on parle du 17 octobre, on a commémoré le 17 octobre, on a mis des plaques, la rue d'Isly, les massacres d'Oran, etc. C'est-à-dire, bon, je ne vais pas encore une fois faire une équivalence ou une balance, mais si demain il y a un groupe de pression acceptable, avec des méthodes acceptables, démocratiques et autres, qui se bat pour une autre date, hein, et pour la reconnaissance d'une autre date, rien n'indique que l'État, pour X raisons, et en général il est assez réceptif aujourd'hui à ce genre de choses, n'accède pas à cette revendication. Et donc à chaque fois ça implique bien entendu une réécriture du passé, en tout cas une focalisation qui déplace la focale. Le rôle des historiens, je dirais d'une certaine manière, c'est de maintenir le cap. Le 17 octobre, pour n'importe quel historien, c'est un épisode dramatique, tragique, criminel, la guerre d'Algérie, mais c'est un épisode. Hein. Il n'a pas à occuper 40% d'un manuel d'histoire, des pages consacrées à la guerre d'Algérie. Ce serait tout simplement absurde du point de vue de la logique.
Oui, moi je voudrais poser une question justement entre le « je me souviens » et « il était une fois ». Toujours, j'ai envie de reprendre ce que disait le monsieur précédent. Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup frappée au moment des films sur les rappelés. Je veux dire, c'est vrai que lorsqu'on dit « je me souviens », il me semble qu'on ait affaire à, disons, une accumulation de souvenirs personnels. Moi, j'avoue qu'au moment de la retransmission de ces témoignages de rappelés, il y a eu un moment où je me suis dit que ce n'était pas que du témoignage, mais que ça devenait presque des preuves historiques, peut-être parce qu'il y avait des chiffres. C'était au moment du témoignage du monsieur qui était jeune au moment de la Villa Susini, qui nous a donné des chiffres. Il nous a dit qu'il en passait 10 par jour, on n'avait pas de week-end, et on a fait ça pendant des mois. Et moi, j'ai été submergée par, j'ai presque envie de dire, l'objectivité de ce qu'il racontait, quoi. Donc, je me demandais, c'est une question directe à l'historien, comment on fait histoire des témoignages ?
Sur le témoignage, oui, bien sûr. Alors, là encore, pour l'historien, c'est presque une banalité. Le témoin est à la fois une source, une ressource. D'abord, le témoin, je dirais, d'abord un acteur. Parfois, on l'oublie, c'est-à-dire, je dirais même avant d'être un acteur, il est une personne. Un témoin est d'abord une personne. Mais il se trouve que l'historien, pour les besoins de son travail, par des formations professionnelles, va très vite l'instaurer en acteur. Ce que fait Patrick Rothman, d'ailleurs. Dès lors qu'il présente un micro devant une personne qui a une expérience et que l'autre sait très exactement de quoi il faut parler, la personne, l'individu, le sujet, se transforme en témoin. Et à partir de là, c'est là où l'historien doit prendre en compte cette position-là, qui ne signifie en rien que le témoin va mentir, c'est pas du tout ça. Mais le témoin va parler, bien entendu, la personne va parler de son expérience, mais son expérience ne se réduit pas jamais, c'est ça qui est important dans la mémoire, mais tout le monde peut en faire l'expérience, je dirais, individuelle. L'expérience d'un événement historique ne se réduit pas, heureusement, à ce que nous en vivons nous-mêmes directement. Sinon, notre expérience historique serait infinitésimale par rapport à l'expérience historique globale. Il y a toujours intégration, d'abord de l'expérience des autres, et puis il y a intégration des discours historiques. Pour prendre un exemple qui est très connu des historiens, vous interrogez un témoin, par exemple, sur la présence en Algérie. Vous l'interrogez aujourd'hui. Eh bien, vous aurez dans le témoignage du vécu, comme on dit, c'est-à-dire des choses qui sont « j'étais à tel endroit, j'ai vécu telle chose, je me souviens de la couleur du ciel, etc. » Et puis, tout d'un coup, vous aurez des phrases qui vont sortir, qui sont intégralement sorties de livres d'histoire. Et la personne ne le sait pas, évidemment, c'est inconscient. Il y a la restitution d'un discours qui est déjà élaboré. Alors, si l'historien, dans ce témoignage, cherche une plus-value, disons, quelque chose qui est un plus par rapport à sa connaissance, il doit, d'une certaine manière, analyser ça. Mais le témoignage surtout, et moi j'en ai parlé en l'occurrence ici, non pas comme ressource pour l'historien, mais comme fait social, ce qui est tout à fait frappant dans les événements traumatiques, mais surtout depuis 10 ans, c'est pas quelque chose qui est systématique, c'est pas quelque chose qui a toujours existé, c'est quelque chose qui existe de manière importante et massive aujourd'hui dans les sociétés développées, même dans les autres. C'est après l'événement traumatique la prise de parole du témoin. Et même, j'irai beaucoup plus loin, si j'ai une minute, on le voit de façon tout à fait frappante dans le rôle qu'on fait jouer à la justice. Qu'est-ce que c'est la justice ? Par exemple, reprenons le procès Papon. Le procès Touvier et surtout le procès Barbier étaient un peu dans la même logique. Le procès Papon, du point de vue de la justice, du droit, des règles, des normes, c'est la société, à la suite d'une plainte, donc de victime, la société va juger un suspect et va le condamner. C'est la société qui condamne. C'est le peuple français, le jury, etc. etc. Tout ça, on le sait. Bon. Dans le dispositif classique de la justice, quels étaient les acteurs importants ? C'était évidemment les magistrats, et surtout le procureur, qui avait une place importante. Dans les dispositifs de procès de type historique, comme par exemple le procès Papon, ou comme ceux qu'on voudrait faire sur la guerre d'Algérie, à tort ou à raison, pourquoi est-ce qu'on veut les faire ? C'est pas simplement pour condamner, c'est pas pour donner la parole à un procureur, c'est pour donner la parole au témoin. C'est la mise en scène du témoin et la mise en scène du témoin dans une enceinte judiciaire. Ce phénomène a commencé, on peut le dater très précisément, il y a un livre là-dessus d'Annette Viviorca qui le montre assez bien, on peut le dater du procès Eichmann. C'est un des premiers grands procès qui a une valeur historique, c'est-à-dire qui couvre un phénomène qui touche l'ensemble de l'histoire de l'humanité, qui n'est plus simplement un procès juridique, procès judiciaire, comme le procès de Nuremberg, où le rôle des témoins était relativement peu important, au détriment des pièces d'archives, des preuves matérielles, c'est la mise en scène du témoin. Le procès Barbie, c'est la mise en scène du témoin. Le procès Papon, derrière, avec ou en parallèle au jugement d'un homme, il y a le défilé des témoins qui viennent. C'est monsieur qui est l'éditeur, il employait le terme de psychothérapie, je ne sais pas s'il est adapté, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, plus que l'historien, qui parfois peut jouer ce rôle, c'est l'enceinte de justice qui parfois joue ce rôle, et on le voit dans le monde entier, dans des situations traumatiques, avec quand même, de mon point de vue, un certain danger, parce qu'on est quand même dans des enceintes où c'est la norme qui est respectée, et pas la parole libre.
Alors, je suis désolé, mais comme cette réponse mérite des applaudissements, je vais utiliser mon privilège de président pour mettre fin à la séance en vous remerciant beaucoup.